Bienvenue dans le podcast Féminisme Initial. Ce podcast est présenté en partenariat avec le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous sommes quatre étudiantes de Sciences Po Paris, Carla, Camille, Colline et Aurore. Nous sommes passionnées par les questions féministes et nous collaborons ce semestre avec le HCE pour la conception de ce podcast. Ce podcast a été enregistré au studio La Poudre, à la Cité Audacieuse. Merci à ce lieu important de la lutte féministe associative de nous accueillir. Féminisme Initial a pour objectif de démocratiser des termes et concepts féministes pour tous les publics de 7 à 107 ans. Pendant une quinzaine de minutes, nous vous présenterons des mots-clés du vocabulaire de l'égalité et des droits des femmes et nous questionnerons le fond de ces notions avec des invités d'une grande diversité, qu'elles et ils soient élus, chercheuses et chercheurs, institutionnels, militantes ou militants, qui viendront nous apporter leur regard aiguisé sur ces questions.
Aujourd'hui, on va vous parler du concept d'écoféminisme. Pour aborder cette notion plutôt complexe de la manière la plus exhaustive possible, nous sommes accompagnés de Sandrine Rousseau et de Réjeanne Sénac, dont l'échange permettra d'approcher l'ensemble des enjeux soulevés par ces questions. Donc Réjeanne Sénac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politiste spécialiste des questions d'égalité et de discrimination. Vous êtes directrice de recherche CNRS au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po, et enseignez également dans cette école. De 2013 à 2019, vous avez été présidente de la commission parité du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. En 2015, vous publiez le livre « Non-frères au pays de l'égalité », dans lequel vous avez créé la notion de « non-frères de la République », désignant celles et ceux qui ne feraient pas partie de la citoyenneté originelle, comme les femmes, les personnes non blanches, les personnes homosexuelles, etc. Plus récemment, en 2021, vous avez publié le livre « Radical et fluide et les mobilisations contemporaines » qui s'intéresse aux différentes formes de militantisme dans notre société. Sandrine Rousseau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, enseignante-chercheuse et femme politique. Vos travaux de recherche portent notamment sur l'économie de l'environnement, les emplois domestiques et la responsabilité sociétale des entreprises. Depuis 2009, vous êtes militante au sein du parti Europe Écologie Les Verts, dont vous avez été nommée porte-parole en 2013. En 2017, vous quittez le parti à la suite de l'affaire Denis Baupin, dans laquelle vous étiez l'une des plaignantes. Vous avez par la suite fondé l'association Parler, qui aide les victimes de violences sexuelles à dire ce qu'elles ont vécu pour mieux se reconstruire. À l'heure du mouvement MeToo, vous êtes donc l'une des figures emblématiques de la lutte contre les violences faites aux femmes et du combat pour l'égalité entre les genres. En 2020, vous intégrez Europe Écologie Les Verts et vous vous portez candidate à la primaire du parti pour l'élection présidentielle. Malgré votre défaite au second tour face à Yannick Jadot, vous êtes parvenue à imposer des thèmes clés du féminisme au centre du débat public, parmi lesquels le terme d'écoféminisme dont il est aujourd'hui question. Avant d'interroger nos deux invités, nous vous proposons un bref retour historique sur la notion d'écoféminisme. L'écoféminisme prend ses racines dans les années 1960, lors des premières manifestations en faveur de la préservation de l'environnement, auxquelles participent des militantes féministes, notamment issues du collectif Women for Life on Earth, et proches des mouvements pacifistes et antinucléaires. Par exemple, en 1980, 2000 femmes de ce mouvement encerclent le Pentagone pour protester contre un pouvoir impérialiste détenu par des mains d'hommes mettant en péril la vie humaine et la planète. Par la suite, des luttes pacifistes de femmes naissent un peu partout dans le monde pour réclamer la parité et la paix dans le monde afin de limiter les dégradations environnementales. C'est en 1974 qu'apparaît pour la première fois le terme écoféminisme tel que nous le connaissons aujourd'hui, notamment popularisé par l'écrivaine féministe Françoise Daubonne dans son ouvrage « Le féminisme ou la mort ».
Aujourd'hui, la notion d'écoféminisme est de plus en plus présente dans le débat public. Sandrine Rousseau, vous en êtes l'une des investigatrices en France puisque vous l'avez notamment mise au cœur de votre campagne à la primaire d'Europe Écologie Les Verts en 2020. Pourriez-vous nous expliquer ce que la notion recouvre selon vous et les raisons qui vous ont poussé à en faire une notion centrale de votre combat politique ?
Au départ, ce n'était pas une notion centrale de mon combat politique. Au départ, j'ai utilisé l'écoféminisme en disant ce qui m'avait permis de comprendre les articulations entre le féminisme et l'écologie pendant la période où je me suis éloignée de la politique. C'est une période de 3-4 ans durant laquelle j'ai beaucoup lu, j'ai essayé de comprendre parce que la violence de ce que j'avais subi dans le cadre de l'affaire Baupin, je rappelle que j'avais dénoncé des violences sexuelles que j'avais subies de la part de Denis Baupin qui était vice-président de l'Assemblée nationale, c'était en 2016, c'était un an avant l'éclatement du mouvement MeToo dans le monde. Et en fait, à l'époque, on a reçu une violence qui était inouïe et ça nous a toutes fait mettre un genou à terre, c'est-à-dire qu'on a toutes vraiment dû arrêter à un moment donné le combat politique. Et moi, je voulais comprendre en fait ce qui s'était passé. Je comprenais pas. Si vous voulez, j'ai eu une crise de foi politique. C'est-à-dire, je me suis dit, mais pourquoi ça arrive dans un parti écologiste? Et donc, j'ai essayé de comprendre ce que je comprenais pas. Et ça m'a amené vers l'écoféminisme. C'est comme ça que j'ai commencé à lire des livres, des articles sur l'écoféminisme. Et je suis revenue à la politique lors de cette primaire pour la présidentielle en disant, ma structure intellectuelle, c'est l'écoféminisme. Mais en fait, pour moi, c'est pas tant un programme politique, en fait, l'écoféminisme, qu'une sorte de philosophie de vie, une manière d'être au pouvoir ou au non-pouvoir, une manière de faire campagne, une manière de penser les choses, mais ça se décline pas forcément en un programme politique très précis. Et en fait, ce mot écoféminisme, qui pour moi était un mot très familier, un mot j'avais lu, j'avais rencontré plein de gens, donc en fait c'était un mot de mon vocabulaire qui devenait courant, quand je l'ai posé dans le débat politique, mais comme plein d'autres mots que j'ai posés dans le débat politique, type déconstruction, radicalité, etc., on générait des espèces d'explosions où on a eu l'impression de quelque chose d'hyper innovant, alors que ça existe depuis les années 70, voire même la fin des années 60, comme vous l'avez dit. Et ça a révélé quelque chose de très profond, en fait, qui est la déconnexion d'une forme de militantisme politique d'avec un militantisme associatif. Et ce mot écoféminisme, je l'ai mis, mais en fait, je l'ai mis presque à mon insu dans le débat politique. C'est-à-dire que ça, comme ça me structurait, évidemment, j'en ai parlé, mais pour moi, il n'y avait pas non plus... ça n'allait pas susciter l'espèce d'étonnement général que ça a suscité.
Et est-ce que vous pourriez nous parler d'un exemple de mesure liée à l'écoféminisme ?
Dans les mesures politiques, il y a, par exemple, travailler sur la question du pouvoir dans toutes les organisations, faire en sorte qu'on sorte d'une structure du pouvoir. Il y a aussi la question de la propriété qui est très présente dans l'écoféminisme. Et puis après, il y a des mesures qui paraissent plus anecdotiques, mais qui aussi structurent les rapports hommes-femmes, qui sont par exemple les tâches domestiques. Et quand je dis, on ne peut pas continuer à faire en sorte d'oublier que les tâches domestiques sont mal réparties, on ne peut pas faire comme si on allait entamer une transformation écologique et mettre ça de côté. C'est-à-dire, ça doit être au cœur du débat politique de savoir comment on fait les tâches domestiques, comment on les valorise, qui les fait, voilà. Et donc, j'ai parlé de ce délit de tâches domestiques qui était, une idée posée comme ça dans le débat politique, mais... pour faire réagir en fait d'une certaine manière, et bien là on a vu aussi toute la violence que ça générait, et pour moi ça dit quelque chose de l'absence de volonté de certains hommes et particulièrement des hommes qui sont en situation de pouvoir. Quand je dis ça, ça veut pas dire des hommes en situation de pouvoir à la tête de multinationales, c'est des hommes en situation de pouvoir au sein des foyers, au sein des ménages, et leur résistance au changement, leur résistance au fait d'obtenir l'égalité. C'est-à-dire que moi, je me suis pris des tonnes et des tonnes de messages me disant, il est hors de question que je fasse les tâches domestiques. Mais hors de question. Et même encore dans la campagne aujourd'hui, il y a des hommes, ça m'est arrivé par exemple hier, il y a un type qui m'a poursuivi en courant en me disant, je suis construit, je veux pas me déconstruire et tout. Enfin, vraiment un truc. Donc en fait, ça renvoie, je pense que ça renvoie à ce qui n'est pas posé dans le débat politique, qui est la résistance des hommes au changement. Et au changement de pouvoir et de rapport de pouvoir. Et ce que je crois que j'ai fait dans cette campagne, c'est de leur poser la question de savoir, mais quand est-ce que vous changez ? Et ça, je pense que pour certains, c'est insupportable. C'est profondément insupportable.
Réjeanne Sénac, dans le cadre de votre ouvrage « Radical et fluide », vous avez effectué une enquête qualitative auprès de responsables d'associations et d'activistes se mobilisant contre le sexisme, le racisme, pour la justice sociale et écologique. Avez-vous identifié une convergence entre les différentes luttes que ces militants et ces militantes mènent et les questions écologistes ?
Alors, ce qui m'intéressait, c'était de voir en quoi ces mobilisations, elles n'étaient pas de l'ordre d'une forme de séparatisme vis-à-vis de la République, ce dont on les accuse souvent, ou d'une forme de segmentation des luttes qui portent des intérêts spécifiques, qui seraient chacun en opposition ou tout au moins en parallèle les uns par rapport aux autres. Mais ce qui m'intéressait, c'était de voir en quoi il y avait un point commun dans ces luttes et en quoi c'était pas seulement du contre les inégalités, contre les injustices, contre la pauvreté, mais aussi du pour. Ce que j'ai vu comme point commun, c'est le constat que pour être efficace contre toutes ces formes d'injustice, il faut que le diagnostic soit un diagnostic radical au sens d'un diagnostic profond qui mette en relation les expressions de ces injustices à travers nos expériences, nos vies individuelles. Donc, comprendre ces expressions d'injustice, ces vécus d'injustice, dans ce qu'elles disent de politique et d'éminemment structurel. Donc c'est en ça où le diagnostic il est radical, et c'est pas une posture qui est une posture seulement idéologique, mais c'est une posture qui est aussi très pragmatique. C'est ce que me disent les féministes, les antiracistes, les écologistes, les antispécistes et les personnes qui luttent contre la pauvreté. C'est-à-dire que pour être efficace, il faut comprendre les causes et il faut s'attaquer aux causes. Que le système capitaliste tardif, le néolibéralisme, c'est-à-dire que nos actions sont guidées par l'objectif de faire le plus de profit possible, que cet héritage-là, de la même manière que l'héritage d'une république qui a été construite sur l'exclusion en termes d'application des principes de liberté, d'égalité, à la fois des femmes, des personnes racisées, mais aussi l'instrumentalisation et l'utilisation de l'environnement et des ressources. Et que donc, là-dessus, on peut voir que cet héritage-là, c'est un héritage qui est diagnostiqué comme étant à la fois sexiste, raciste et écocidaire. Et donc, il y a une imbrication des dominations, dans ce que vous avez beaucoup dénoncé, cette idée que notre histoire, notre rapport à la croissance, à l'épanouissement, à la richesse, elle est fondée sur cette idée de prédation à la fois des corps, des femmes, des personnes racisées, mais aussi des ressources. Que donc c'est une domination croisée qui est à la fois donc sexiste, raciste et écocidaire. Et que donc l'émancipation doit aussi être une émancipation qui déconstruit de manière croisée cet héritage-là. Et que donc on ne peut pas être féministe de manière radicale en déconstruisant les causes si on n'est pas aussi écoféministe. On ne peut pas être antiraciste si on n'est pas aussi dans une logique où on dénonce, où on dépasse une écologie qui ne soit pas une écologie décoloniale, qui interroge aussi notre héritage colonial. Donc c'est en cela... C'est dans ce diagnostic radical qu'il y a imbrication, en termes de domination, mais aussi en termes d'émancipation. Et dans les réponses à apporter, elles sont aussi radicales au sens où elles mettent au premier plan les premiers concernés. Donc cette idée que le qui du politique, il est essentiel, à la fois sur le qui parle, donc celles et ceux qui étaient dans l'ombre de la domination, arrivent vraiment au premier rang et sont en capacité, de par leur point de vue aussi, de parler de ces dominations et de porter l'émancipation à travers les sujets qui sont mis en évidence. Et dans le comment aussi, donc les sujets, on voit bien, la lutte contre les violences sexistes, la lutte contre les violences policières, la lutte contre... les violences qui sont subies aussi du fait du dérèglement climatique, du fait de cette destruction des ressources. Et le hashtag « on veut respirer », il est très intéressant parce qu'on voit bien en fait les liens entre les différentes formes de violences. Il y a eu un partenariat d'ailleurs entre le comité Adama, Alternatiba, voilà. Et donc la réponse, elle est dans un comment qui est un comment... à la fois conscient de l'imbrication de ces dominations, de la nécessité de travailler ensemble en termes d'émancipation, mais sans se fondre et sans être derrière la même bannière. Donc on est dans des logiques d'alliance, de diversité tactique, où chacun porte aussi à sa manière les actions qu'il juge le plus légitimes, mais aussi les plus efficaces, plaidoyer, désobéissance civile, remise en cause de la frontière violence-non-violence.
Oui, sur ce que vous disiez... Là, à l'instant, c'est que l'écologie ne peut pas être séparée des luttes sociétales. Et c'est ça que moi, j'ai compris pendant la période dans laquelle j'ai été presque contrainte de réfléchir vraiment aux racines du problème. Et ça, je trouve que ça n'est pas pensé dans la question écologique, ou mal pensé, ou peu pensé. Alors, c'est pensé par certains acteurs, les militants de terrain et ceux qui prônent la radicalité. Et en effet, on ne revient pas à la base de ce qu'est le capitalisme et ce qui est cette espèce de prédation des corps, de la nature. Et du coup, à ce 19e siècle, enfin, ce 18e et 19e siècle, qui ont été des moments de bascule et de construction d'un monde complètement fait autour du profit, complètement organisé autour du profit et du profit purement monétaire. Et ce qui est très fascinant, c'est que ça aurait dû susciter un débat politique important. Et c'est pas ça qui a suscité le plus de débats politiques. Peut-être parce que c'est là que se situait réellement la radicalité du propos, et donc on s'est contenté de maintenir les rapports de pouvoir. Et en fait, je trouve que ça dit quelque chose aussi de la manière dont on transforme ou non le monde dans lequel on est actuellement. C'est que aujourd'hui, je crois que il y a vraiment quelque chose à aller chercher de l'ordre d'un renversement des rapports de pouvoir. Parce que tant qu'on n'a pas ce renversement, en fait, moi, je pensais presque un peu naïvement que ça allait se faire, quoi. C'est-à-dire que, oui, les gens étaient pour l'égalité femmes-hommes. Et qu'en fait, c'était juste une question d'opportunité. Ils n'avaient pas trop eu l'opportunité de le faire, mais que si on leur proposait, ils le feraient. Et en fait, évidemment, pas du tout. Et donc, je crois que la première des choses à faire, c'est ce renversement de pouvoir. Et c'est pour ça que, par exemple, sur les violences sexuelles, je lâche rien, ou on est plusieurs, hein. Je suis pas toute seule évidemment dans ce mouvement-là. Il faut citer évidemment des Alice Coffin, des Clémentine Autain aussi, qui d'une certaine manière ont toujours porté ça, même si voilà. Et donc il y a ce truc-là où il faut vraiment aller. Et puis il y a tous les mouvements féministes, les Caroline de Hasse, etc. Et ça, je crois que en fait c'est premier, et c'est ça qu'on m'a beaucoup reproché, par exemple, et qu'on ne comprend pas forcément dans le propos que je porte sur écoféminisme, c'est que je porte la question des structures de pouvoir en premier par rapport à la transformation écologique, parce que en fait, on n'arrivera pas à la faire si on n'a pas d'abord renversé la table de ce point de vue-là. Et c'est ça qui est potentiellement révolutionnaire, et c'est ça qui est insupportable pour une partie de la population, et je pense que ça renvoie à la radicalité dont parlait Régène Sénac.
Juste peut-être là-dessus, moi je trouve que c'est très intéressant parce que ça renvoie vraiment aux propos du manifeste Féminisme pour les 99% de Cynthia Arusa, Titi Batacharaya et Nancy Fraser. C'est-à-dire que le féminisme des 1%, ça, c'est vraiment un féminisme qu'on peut qualifier de néolibéral aussi, où l'enjeu il serait de donner la possibilité aux femmes d'être à égalité des dominantes dans un monde inégalitaire. Alors que le féminisme pour les 99%, c'est cette idée que être féministe, c'est déconstruire justement les systèmes de domination, et que dans un monde qui enflamme, on ne peut pas être féministe sans être anti-impérialiste, anti-raciste et écologiste. Et que donc, c'est un même mouvement de déconstruction de tout ce qui a fait imbrication de domination en termes sexistes, racistes et dimension écocidaire, qui fera aussi imbrication d'émancipation. Donc l'écoféminisme participe à la fois du diagnostic de l'imbrication des dominations et de la réponse à travers une imbrication des émancipations.
Le capitalisme est patriarcal en soi, de manière vraiment complètement imbriquée. Et qu'en fait, c'est cette imbrication qui fait à la fois sa solidité et le fait qu'il nous envoie dans le mur. Et donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment quelque chose à... Et évidemment que ce capitalisme patriarcal est aussi colonialiste, est aussi écocidaire. Et qu'en fait, c'est comme un espèce de puzzle maléfique qui s'est mis en place et dont il faut détacher chaque pièce pour réussir à transformer le monde. Et ça, je crois que ce dont on ne se rend pas compte actuellement, c'est qu'il y a énormément de gens et il y a énormément de mouvements militants. Et en dehors des mouvements militants, il y a énormément de personnes qui sont très conscientes de ça, en fait. C'est ça qui est très étrange, c'est que ça c'est pas perméable dans une forme de discours politique convenu, mais en fait, sur le terrain, c'est quand même quelque chose d'extrêmement présent. Et donc, quand on se pose encore la question dans le débat politique de l'intersectionnalité, mais c'est juste... Ça paraît presque même complètement dépassé, déjà, cette affaire d'intersectionnalité. Et donc, là, je crois qu'on est dans un moment de bascule et il faudrait que cette espèce de silencieux, ces silencieuses et silencieux, ces 99% qui ont peine à rentrer dans le débat politique, puissent faire masse pour qu'on arrive à renverser la bataille culturelle de ce point de vue-là, parce que là, pour le coup, c'est vraiment une bataille culturelle.
Et justement, vous parliez du concept d'intersectionnalité qui a cristallisé le débat public qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps. Est-ce que vous pourriez définir ce concept assez brièvement, selon vous ? Qu'est-ce que c'est l'intersectionnalité ?
Alors l'intersectionnalité, c'est un terme qui est souvent associé à une juriste afro-féministe, Kimberley Crenshaw, en particulier dans un de ses articles, où elle soulignait l'invisibilité à la fois dans le militantisme et dans le traitement juridique des violences faites aux femmes afro-américaines. Et donc, elle soulignait la nécessité de prendre en compte l'intersection des critères d'identification qui deviennent aussi des critères de discrimination. À travers l'enquête que j'ai effectuée, ce qui est intéressant, c'est que un grand nombre de féministes, en particulier ce qu'on appelle les féministes historiques, soulignent que l'imbrication, plus que l'intersection d'ailleurs, hein, l'imbrication des critères d'inégalité et de discrimination, elle est assez ancienne et elle date, elle a été portée en particulier dans les années 70-80 par les féministes autour en particulier de la question lutte des classes, lutte des sexes et lutte des races, donc où il y avait vraiment déjà une prise de conscience très forte hein, du fait qu'on pouvait être discriminé ou subir des inégalités différentes en fonction du fait qu'on était femme, mais de telle origine ethnoculturelle, de telle origine économique et sociale, enfin voilà. Donc, ces enjeux-là, ils sont pas advenus sous l'influence des États-Unis. Voilà. Je pense que c'est important de voir que, en fonction des courants de pensée dans lesquels on se situe, on va pas employer forcément les mêmes termes. D'ailleurs, ce terme d'intersectionnalité, il a été en effet assez critiqué avec cette idée. Ça renvoyait plutôt au fait de rigidifier des identités, alors que l'idée, elle était plutôt d'imbriquer des critères de discrimination et de domination. C'est à la fois, je trouve que c'est très stimulant en termes de diagnostic, de discussion, à la fois pour rendre visibles des éléments qui ne l'étaient pas, mais aussi pour être plus efficace dans les réponses, hein, c'est toujours ça le sujet. Mais sans caricaturer et sans avoir l'impression qu'on a commencé à se poser ces questions quand on a traduit l'article de Kimberley Crenshaw en 2005. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Après, ça recouvre aujourd'hui aussi des débats sur la question de la généalogie, de l'héritage féministe, des héritages féministes. Moi, j'ai par exemple interviewé Souad Benani, qui a monté en particulier les Nana Beur dans les années 80, et où Nadia Chabat, donc collectif national des droits des femmes, qui dit que dans les années 70-80, elle portait ces questions-là, en particulier des droits des femmes immigrées, du racisme, enfin voilà, du féminisme. Donc, il y a des choses qui se posent de manière différente aujourd'hui, spécifique, mais qui portent des enjeux qui étaient déjà des enjeux portés. C'est un peu comme l'écoféminisme, hein. On a vu que ça venait des années 60-70. Là, c'est un peu pareil. On a l'impression de réinventer ou de se réapproprier l'écoféminisme en 2020 et 2022. Et là, de la même manière, l'intersectionnalité pose les choses de manière un peu différente, mais qui était déjà discutée depuis très longtemps par les féministes.
Sur l'intersectionnalité, il y a Sarah Mazouz et Éléonore Lépinard qui ont fait un livre qui s'appelle Intersectionnalité aux éditions Anamosa, qui est très court et très facile à lire, et qui parle d'une expérience de la minorité. Et en fait, l'intersectionnalité, c'est l'expérience de la minorité. Et ce qu'elles disent, c'est qu'on ne peut pas complètement se reconnaître dans aucun des mouvements si on prend pas en compte la question de l'intersectionnalité. C'est-à-dire que les femmes, par exemple, musulmanes aujourd'hui, ne peuvent pas se reconnaître ni dans les mouvements uniquement musulmans, ni dans les mouvements uniquement féministes, ni dans les mouvements antiracistes, et qu'en fait, leur expérience de minorité est différente. Et voilà, c'est pas une addition de ça, c'est quelque chose de différent. Et ce que je trouve hyper intéressant, moi, dans l'intersectionnalité, c'est qu'on part d'une expérience vécue des individus, donc de cette expérience de minorité et de minorisation, vers quelque chose qui est plus large et qui renvoie chaque individu à l'histoire dont il est issu. Et en l'occurrence, c'est pour ça que l'écoféminisme porte la question décoloniale, porte la question de l'esclavage, porte la question évidemment du féminisme et de la prédation et de l'antispécisme et de la prédation de la nature. Et donc en fait, de ces personnes-là, c'est comme si s'ouvrait un spectre qui... au travers d'elles et des discriminations qu'elles peuvent subir, eh bien, s'ouvrait le spectre de toute l'histoire de pourquoi elles subissent ces discriminations. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a l'impression, dans le discours universaliste tel qu'on l'entend, qui est à mon avis un discours totalement caricatural et qui dévoie totalement l'universalisme, on a l'impression que les individus sont exempts de l'histoire qui, de leur famille, de leur passé. Et c'est comme si, en fait, on les sortait du contexte dans lequel ils ont vécu. Et ce que refait l'écoféminisme, c'est de remettre les gens dans leur contexte. Mais ça vaut pour l'antisémitisme, ça vaut pour le racisme, ça vaut en fait pour l'ensemble des discriminations, et de dire que ces discriminations ne sont pas là par hasard. En fait, c'est pas quelque chose qui est juste anecdotique dans une histoire. C'est quelque chose qui structure nos rapports sociaux et donc qui structure l'organisation de notre société. Et que si on veut aller vers une société écologique, donc une société respectueuse, où chacun et chacune a sa place, eh bien, il nous faut absolument comprendre, voir, accepter ces discriminations et leurs histoires. Et donc les poser sur la place publique pour trouver les moyens de se réconcilier avec les personnes issues de ces histoires pour arrêter le système de discrimination systématique dans lequel elles peuvent se trouver. Et ça, c'est vraiment très intéressant, en fait, parce que ça nous pose plein de questions de savoir comment on l'a fait, cette conciliation. Comment on fait en sorte qu'on trouve les voies et moyens pour, non pas de faire du passé table rase, mais de faire du passé quelque chose dont on tire les leçons pour ne pas construire l'avenir, quoi. Et ça, en tous les cas, moi, c'est ce qui me motive dans l'écoféminisme et c'est ce que je trouve vraiment hyper intéressant.
Aujourd'hui, les marches pour le climat et les résultats électoraux illustrent une réelle mobilisation des plus jeunes générations face à l'urgence climatique. Parallèlement à cela, on observe un mouvement de libération de la parole des femmes et des jeunes filles qui dénoncent les violences qu'elles ont subies et refusent les dictats de la société patriarcale. Quelle place peut occuper le mouvement écoféministe dans ces mobilisations et est-ce que l'écoféminisme est la solution pour faire converger ces combats ?
Alors, l'écoféminisme, pour moi, répond à cela en ce sens que l'écoféminisme revoit assez profondément et l'esthétique politique, et ça, on le voit dans les mouvements écologistes, féministes, LGBTQIA+, anti-validisme, etc. Et en fait, tous ces mouvements-là de lutte contre la discrimination, précisément parce qu'ils n'arrivent pas à se faire entendre par des voies et moyens classiques de la politique, inventent une esthétique politique, inventent une esthétique militante. On le voit avec Extinction Rébellion, on le voit avec d'autres. Et ça, je crois que c'est très intéressant parce que c'est profondément l'écoféminisme. C'est-à-dire que l'écoféminisme est lié aussi à une forme de créativité politique, de créativité de l'action politique et de son imagerie. Et ensuite, il y a quelque chose là-dedans qui est très évident, à mon avis, chez une partie des jeunes, pas chez la totalité des jeunes, et qui est de revoir toutes les catégories dans lesquelles on nous a mises. C'est-à-dire que l'espoir que je vois dans les plus jeunes générations aujourd'hui, c'est de même pas se reconnaître dans les catégories à l'intérieur desquels on lutte pour essayer de faire en sorte que ces catégories soient représentées à équité, c'est-à-dire que et à égalité, c'est-à-dire que par exemple la sexualité, on était hétéro ou on était homosexuel, lesbienne, gay. Avant, j'ai l'impression que maintenant, c'est même pas un sujet, en fait. C'est-à-dire que, on a la sexualité qu'on veut au moment où on veut et que finalement, il n'y a même pas de catégorie au nom de laquelle on mène la lutte. Et ça. Et je trouve que le mouvement trans interroge aussi les catégories hommes, femmes et la fluidité entre les deux. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant dans la force politique que ça amène dans le champ politique, parce que ça, finalement, ça révolutionne un peu toute une manière de faire politique classique qui était de la faire depuis une base, une catégorie que l'on connaît, et d'essayer d'aller en chercher une autre. Et là, tout est refondé sur l'aune de l'égalité, de l'absence d'identité aussi, d'une certaine manière, d'une identité assignée, d'une assignation à une identité. Et ça, je trouve ça vraiment très important.
Alors moi, par rapport à mon enquête, ce que j'ai vu, c'est que y a une réappropriation de la démocratie, une réappropriation du politique, qui est fondée sur une défiance quand même vis-à-vis de la démarche représentative, vis-à-vis des corps intermédiaires. Donc avec cette volonté de reprendre l'espace physique, on le voit à travers les Gilets jaunes, les Nuits debout, Instinction Rébellion, les collages contre les féminicides, de reprendre l'espace à travers l'espace virtuel, à travers les hashtags, de redevenir visible, de donner visibilité aux enjeux qui sont jugés des enjeux depuis trop longtemps tu et invisibilisé. Donc il y a une réappropriation du politique, c'est pas une dépolitisation, c'est une réappropriation du politique aussi par le personnel et l'intime et politique, hein, cette idée que c'est à travers les expériences vécues qu'on dénonce des structures politiques. Donc là il y a vraiment plusieurs repolitisations. Et on voit que y a en même temps une suspicion, une défiance vis-à-vis de l'idée de convergence. C'est-à-dire que y a quelque chose, c'est là où je dis que c'est radical et fluide. C'est radical parce que ça interroge d'emblée, à travers l'expérience vécue, mais d'emblée le politique. Mais y a une suspicion vis-à-vis de tout ce qui serait trop rigide, trop généralisation, trop enfermement justement dans des catégories a priori. Donc on est beaucoup plus dans quelque chose qui sera de la co-construction, de l'émancipation toujours en mouvement. Et alors que le diagnostic il est éminemment global, hein, de la dimension sexiste, raciste, écocidaire, la réponse elle se veut être une réponse toujours éminemment dans l'ici et le maintenant. Donc quelque chose qui ne soit enfermé dans rien, qui soit plutôt au niveau local. On me dit il y aura pas de grand soir, mais des jardins partagés. Donc il y a cette idée toujours de partage, hein, de co-construction. Donc là-dessus, moi je considère que on voit bien qu'il y a une volonté d'être dans quelque chose qui ne soit pas hiérarchisé. Et la convergence est toujours perçue comme potentiellement une hiérarchie, hein, d'une lutte sur une autre. Et donc l'écologie, lorsqu'elle est pensée de manière politique, de manière féministe, de manière décoloniale, il y a vraiment cette idée qu'il n'y a pas de hiérarchie ou de chapeau, mais que tout ça est fait vraiment partie d'une même conception, d'un rapport qui soit un rapport émancipé au monde.
Et concrètement, pensez-vous que la récente pandémie a remis en lumière les urgences sociales et écologiques, et quel rôle vous pensez que le mouvement écoféministe aurait-il pu jouer dans la lutte contre celle-ci ?
Alors le croisement des urgences sociales et des urgences écologiques, à travers, on l'a bien vu à travers le slogan « fin du mois, fin du monde, même combat », n'a pas attendu la pandémie de la Covid-19, hein, pour émerger dans les revendications des mouvements sociaux, hein, et des luttes d'en bas. Mais ce qu'on a vu à travers la pandémie, moi j'ai fait une partie de mes 130 entretiens pendant le confinement et pendant la pandémie, c'est que ça a quand même été un événement qui a rendu cette prise de conscience de la dimension dystopique de notre système politique et économique, de cette idée que nos catégories modernes, notre croyance dans la croissance illimitée nous faisait était complètement irrationnelle, au sens où nous allions nous-mêmes à notre autodestruction, non seulement à la destruction de notre environnement, mais aussi à notre destruction, et que les frontières qu'on faisait entre humains, non humains, entre les nations n'avaient pas de sens. Et donc il y a, je trouve, ça joue un rôle très important dans le passage d'une croyance dans l'idée qu'on n'avait pas de choix, qu'il n'y avait pas d'alternative, qu'il fallait qu'on alloue au mieux les ressources pour continuer à être dans ce registre de croissance illimitée, au fait que on se rendait compte que ce qui est le seul réalisme vital, c'est-à-dire ce qui allait nous permettre de survivre, c'était de changer de système et de modèle. Et beaucoup des personnes que j'ai interviewées, des activistes que j'ai interviewées, m'ont dit le seul réalisme, c'est d'être utopique. Et je trouvais que c'était pas du tout que rhétorique, hein, c'était cette idée que face à une réalité qui était dystopique, à travers cette pandémie, on a vu en accélérer les conséquences de notre comportement de prédation, en particulier des ressources, de déséquilibre de notre rapport au monde, et que face à ça, la seule réponse, c'est de changer de système, hein, c'est de porter des alternatives, Et face aux There is no alternative, il y a beaucoup d'alternatives. Et vraiment, cet espace vital qui est d'avoir ce qu'on appelle la sobriété fertile. Voilà, cette idée vraiment de redonner de la place et de le redonner de la crédibilité, de prendre au sérieux des alternatives structurelles, mais aussi des alternatives locales. Et de penser ensemble, d'ailleurs, une remise en cause vraiment des structures et une vie de cohérence au quotidien et au présent. Et là-dessus, on m'a beaucoup parlé d'utopie concrète, d'utopie en acte, de municipalisme libertaire, de permaculture, d'écoféminisme, de réponse aussi par des listes citoyennes. Donc il y a vraiment cette idée que ça a amené à penser des nouveaux modes de vie, une critique structurelle de notre héritage, non pas comme une posture esthétique ou une posture politique surplombante, mais comme quelque chose qui était à la fois juste et vital. Et je trouve que le vécu de la pandémie, cette expérience-là, ça a rajouté une forme de crédibilité, d'urgence vivre autrement, à se penser autrement, à dépasser ces logiques de prédation qui nous étaient plutôt données comme étant nécessaires pour continuer à vivre, alors que là, il nous a été montré qu'elles étaient au contraire mortifères dans notre rapport au monde. Donc moi j'ai vraiment vu ce moment où il y avait justement beaucoup d'alliances, des tribunes, cette idée qu'on allait porter un monde d'après qui sera un monde à la fois plus juste, plus vivable, plus heureux. Là on est un peu dans le monde d'après, même si on n'est pas complètement sorti de la pandémie, et on voit bien que c'est pas aussi simple, hein, et que la reproduction du système reprend quand même la main. Donc comment faire pour que le réalisme d'aujourd'hui et de demain soit de l'utopie en acte juste et heureuse, c'est un vrai enjeu.
Moi, je suis un tout petit peu moins optimiste, notamment parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont perçu la dystopie et l'absurdité du monde dans lequel on était et de la manière dont la pandémie a été gérée. Ça, je crois que c'est des expériences assez partagées. Maintenant, je trouve qu'il nous manque, et il nous a manqué, et il nous manque encore aujourd'hui, l'espèce d'analyse un peu intellectuelle et structurelle de pourquoi on a ressenti cette dystopie et cette absurdité. Et j'ai l'impression que du coup, les personnes sont dans des stratégies qui sont presque des stratégies individuelles et pas forcément dans des stratégies de militantisme ou collective permettant de renverser les choses. Et ce qui nous a manqué, c'est vraiment cette analyse de la situation. Tu vois, le fait que le Covid est une crise écologique, le fait que la crise écologique va développer d'autres pandémies, le fait que on n'est pas tous égaux face à l'adaptation à ces crises, et que en cas de crise, très vite la solidarité disparaît, quoi. Et ça, en fait, il n'y a pas eu d'analyse de ça. Et je trouve que là, maintenant, ce qui serait notre job à nous, et ce que, en tous les cas, moi, j'entends bien mener, c'est, et quand je dis ça, je pense que ça doit venir du monde politique, mais ça doit aussi venir du monde intellectuel. Et c'est d'analyser ça. C'est-à-dire de mettre en mots des choses que ressentent les gens, mais ressentent de manière assez confuse et pas très structurée, et de le transformer en une forme d'action politique, et de lui offrir une forme de débouché politique, en fait. Et ça, pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça soit très conscientisé, tout ça. Et là, il y a une urgence à le conscientiser quand même. Et quand on voit toutes les personnes qui, par exemple, ont des stratégies de changement de boulot, de changement de lieu d'habitation, tout ça, et c'est pas forcément que les personnes riches, évidemment, il y a eu des personnes riches, mais il y a aussi des personnes qui juste ont changé de boulot comme ça, malgré le fait qu'elles aient des boulots précaires. Il n'y a pas derrière, ça se raccroche pas à quelque chose de plus général et à un débouché politique. Et là, je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu notre mission que de leur offrir une espèce de perspective qui soit collective et pas uniquement individuelle.
Merci beaucoup, Sandrine Rousseau et Régène Sénèque, pour votre intervention sur notre podcast.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à nos deux invités, Sandrine Rousseau et Réjeanne Sénac, d'avoir accepté d'intervenir dans ce 7e épisode du podcast Féminisme Initial, consacré à l'écoféminisme. Les références citées durant l'épisode figurent dans la description du podcast. C'était donc le dernier épisode de notre série. Merci à toutes nos invitées d'avoir participé à ce projet. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, auprès des personnes déjà initiées aux questions féministes et celles qui le sont un peu moins. Nous rappelons que ce podcast a été réalisé par Camille, Colline, Carla et Aurore en collaboration avec le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci de nous avoir écoutés sur Féminisme Initial.